midi, midi 15, le quart d'heure actu sur RCN. Magali Santulli.
Bonjour à tous, bienvenue dans le quart d'heure actu, votre émission en direct du lundi au vendredi pour vous partager l'essentiel de l'actualité en Meurthe-et-Moselle, en France et à l'international. Nous sommes le mercredi 3 juin, on jette un coup d'œil à la météo du jour, un ciel de traîne peu actif s'impose sur le département aujourd'hui. On alterne entre importants passages nuageux, quelques éclaircies et parfois de faibles averses. Le vent souffle encore sensiblement et le fond de l'air paraîtra frais. On est quelques degrés en dessous des normales de saison avec un mercure qui affichera cet après-midi de 17 à 20 degrés sur la Meurthe-et-Moselle. Dans notre dossier du jour, quelle souveraineté alimentaire pour la France ? L'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire se sont réunis à Tomblaine pour évoquer les enjeux de souveraineté alimentaire à l'échelle régionale. Et puis 3h10 d'attente contre 2h15 10 ans plus tôt. La durée des passages aux urgences a augmenté pour tous les parcours de soins, d'après deux nouvelles études publiées par la direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les délais se sont particulièrement allongés pour les patients devant être hospitalisés.
Le quart d'heure actu sur RCN.
Et tout de suite, c'est le rappel des titres. Un homme de 41 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour enlèvement et séquestration de mineurs de moins de 15 ans après la disparition dans le Gers de Liana, 11 ans. Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver la collégienne, le profil du suspect se précise. Originaire du département, il connaissait la famille qui avait déjà eu quelques doutes à son sujet. Il était également visé pour une plainte pour viol sur une fillette de 10 ans déposée en août et avait fait l'objet d'un signalement pour comportement inapproprié dans un lycée où il travaillait. C'est dans sa voiture que des témoins disent avoir aperçu Liana vendredi après-midi, confirmé par l'exploitation de la vidéosurveillance. L'homme a tenu devant les enquêteurs des déclarations, je cite, incohérentes et imprécises. Les députés ont largement adopté en première lecture le projet de loi d'urgence agricole. Le Rassemblement national a apporté son soutien au gouvernement, tandis que la gauche s'est unanimement montrée défavorable. Consécutif à la colère des agriculteurs, l'hiver dernier, le projet de loi entend leur apporter des solutions concrètes à de nombreux problèmes. Parmi les différents points du texte, les pesticides, les stockages d'eau, les agrandissements d'élevage ou les tirs sur des loups, le texte doit encore être examiné au Sénat. La Confédération paysanne, rejointe par les ONG Greenpeace et Génération Future, a accusé le texte de privilégier l'agro-industrie au détriment de la majorité des paysans. Trois personnes sont mortes à Paris en marge des célébrations suite à la victoire du PSG en Ligue des Champions. Un conducteur de moto est mort dans un accident de la circulation sur le périphérique. Et puis deux personnes sont décédées après des chutes dans la Seine. Par ailleurs, un adolescent de 13 ans aurait perdu un œil à la suite d'un tir de LBD à Bobigny. Le tir aurait eu lieu depuis une voiture de police lors des célébrations. Le parquet a saisi l'IGPN après un signalement d'un élu LFI. Allez, tout de suite, on passe au dossier du jour.
RCN, le quart d'heure actu, Magali Santulli.
Quelle souveraineté alimentaire pour la France ? L'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire, producteurs, collectivités et consommateurs, se sont récemment réunis à Tomblaine pour évoquer les enjeux de souveraineté alimentaire à l'échelle régionale. Écoutez Jérôme Mathieu, président de la Chambre d'agriculture du Grand Est.
Le plan national de souveraineté alimentaire a d'abord été travaillé au niveau national avec les filières et la profession agricole pour voir quelles filières il fallait développer, quel investissement il était nécessaire de faire, quel aménagement il était nécessaire de faire pour regagner la souveraineté alimentaire de la France sur l'ensemble des productions agricoles. Une fois que ce plan national a été tissé au niveau national, chaque région est appelée à faire la même chose avec ses filières. Donc c'est ce qu'on a fait à Tomblaine avec le Grand Est, avec l'ensemble des filières de la région Grand Est, pour voir quel type d'investissement, quel type d'accompagnement et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement regagner la souveraineté alimentaire quant au niveau de la production, l'ensemble des productions, que ce soit les productions viande classique, viande bovine, viande ovine, etc. Et puis, surtout, pour ce qui est de la région Grand Est, les manques que l'on a, notamment au niveau de la viande blanche. Donc, une fois que ces assises régionales seront faites, on va dire, ben voilà, nous, dans la région Grand Est, on peut peut-être développer telle ou telle production, mais il faut lever tel ou tel frein, et ça sera agrégé au niveau national pour que l'État, les régions, etc. puissent voir comment on peut développer tel type de production, comment on peut faire en sorte de lever des freins pour des investissements, que ce soit en production agricole, que ce soit en transformation, pour concourir à la souveraineté alimentaire nationale.
Et une trajectoire régionale à 10 ans a été fixée.
Cette première journée a permis déjà de se connaître, de faire une journée interfilière, parce que généralement, les organisations, on parle ici de la production laitière, là de la production de viande, là de la production de poulet, etc. Et là, c'est de se mettre tous ensemble et de voir comment on peut, quelle interaction, quelle chose serait à faire pour développer l'ensemble des productions, pour se dire que dans telle production, on est bien et il y a plutôt des problématiques de valorisation, de revenus, dans d'autres, c'est des problématiques d'investissement, dans d'autres, c'est des problématiques sociétales pour pouvoir installer de nouveaux ateliers de production, etc., etc. Donc, pour le moment, on est en phase de réflexion, on est en train d'agréger tout ça. On pourra aussi faire des rencontres individuelles, entre guillemets, des industriels, de certains industriels qui ont des projets, pour voir comment on peut les accompagner. Et ça, au niveau global, c'est-à-dire les collectivités, avec les services de l'État et la profession.
Et aujourd'hui, les filières font face à plusieurs défis.
Le premier grand défi, c'est le renouvellement des générations. Pour produire, pour faire, il nous faudra effectivement des bras, des hommes, des femmes qui s'installent en agriculture, qui embrassent aussi des carrières dans l'agroalimentaire, etc. Donc il y a le renouvellement des générations. Deux, il y a la problématique de la valorisation dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, et de la valorisation aussi en tenant compte du changement climatique. Parce qu'on ne fera plus les mêmes productions forcément demain que hier, plus dans les mêmes conditions, et on a aussi ce changement climatique aussi à appréhender et à voir comment on veut faire. Et puis, comment on peut développer de nouvelles filières, parce qu'il y a des filières qui sont très déficitaires dans le Grand Est et au niveau national. Si on prend les filières des viandes blanches, notamment du poulet, de la volaille et de l'œuf aussi, hein, on est déficitaire complètement. Donc, comment on peut faire pour accompagner les agriculteurs pour installer des nouvelles unités de production en lien avec des entreprises de transformation et de commercialisation. Tout ça aussi, toujours dans le contexte de changement climatique que l'on connaît partout en France, mais notamment dans le Grand Est aussi.
Et autour de cet enjeu de souveraineté alimentaire, le Grand Est possède plusieurs atouts.
C'est vraiment la polyculture élevage. C'est-à-dire qu'on a à peu près toutes les productions qui sont faites dans le Grand Est et on a la chance d'avoir aussi des productions végétales qui permettent de nourrir l'élevage, des productions végétales qui sont bien sûr tournées vers le marché européen et le marché international, mais on a la capacité d'avoir des volumes de céréales importants pour nourrir l'élevage, donc ça c'est un vrai atout. Donc ce contexte de polyculture élevage permet d'avoir, d'être plus résilient et de mieux résister au changement climatique par rapport à d'autres régions qui sont beaucoup plus touchées, mais il faut qu'on soit vigilant et que l'on soit prêt à s'adapter pour justement faire face au changement qui va continuer peut-être à avancer. Et les atouts aussi de la région, c'est d'avoir un bassin de population important, donc des consommateurs, et puis d'être au cœur de l'Europe, parce qu'on est la région Grand Est au cœur de l'Europe, donc d'avoir un bassin de population et un bassin de consommation proche de nous sur le territoire. Et puis un autre atout de la région, c'est son tissu d'industrie agroalimentaire, sur l'ensemble de la région, dans l'ensemble des productions, qui permet justement de pouvoir développer des ateliers de production, quels qu'ils soient entre guillemets, pour arriver à produire l'alimentation de nos concitoyens.
Et les conclusions de cette rencontre en région devront remonter au niveau national d'ici la fin de l'été.
Pour qu'elle puisse être agrégée au niveau national et voir si on arrive à tenir les ambitions qui ont été mises sur la table au niveau national. Donc là, il y a eu, nous, la première journée interfilière, là, où tout le monde est venu échanger à Tomblaine, mais il y avait eu aussi un certain nombre de contributions écrites. C'est-à-dire que des entreprises ou des filières ou, qui n'avaient pas pu se déplacer ont fait des contributions écrites en disant, ben nous, on a tel ou tel projet, tel ou tel investissement à prévoir, tel ou tel investissement prévu. Sachant qu'on reste lucide, ça ne va pas être le grand soir. Ce qu'il faut absolument, c'est arriver à identifier les projets qui sont en cours, en train de germer, pour comment on peut les faire accélérer. On ne va pas décider dans les assises de dire on va faire 4-5 usines. Quoi. C'est pas, voilà, il faut rester lucide. C'est vraiment quel investissement serait amené à la fois par la filière de la production, c'est-à-dire comment on installe de nouveaux ateliers de production de poulet, comment on installe de nouveaux ateliers de production de porc. Est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui qui sont en cours et qui sont bloqués par de la réglementation, qui sont bloqués par des freins administratifs? Comment on peut les faire accélérer? Comment on peut donner envie à des jeunes qui ont des projets innovants de les mettre en œuvre, ou des jeunes, des moins jeunes, mais ceux qui voudraient rejoindre la production agricole, comment on pourrait les mettre en œuvre? Donc ça sur la partie agricole. Et sur la partie transformation, filière, c'est comment on peut accompagner les projets qui sont en cours, parce qu'il y a des projets qui sont en cours partout sur le territoire, mais certains sont bloqués pour des freins administratifs, des freins, il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes divers et variés. C'est comment on peut les accompagner, comment on peut les accélérer pour justement développer cette production-là. C'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table pour vraiment accélérer les choses. Et puis, demain, sur les grandes cultures, après deux années très compliquées au niveau des grandes cultures, au niveau de la rentabilité, avec des zones, puisqu'on a dans la région Grand Est une zone intermédiaire où on a particulièrement des problématiques sur les assolements et les productions qui sont encore rentables. Comment on fait pour que dans ces zones, on trouve de nouvelles productions? On remette peut-être en place de l'élevage pour valoriser les filières végétales qui sont dans le secteur. Voilà, on a vraiment des choses très concrètes et tout ça devrait être fait pour l'été ou fin de l'été, on va dire, pour le faire remonter au niveau national et pour voir comment, chacun à son niveau, on peut contribuer à développer la production, la transformation pour concourir à l'ambition nationale.
RCN, le quart d'heure actu, midi 15.
Et dans le reste de l'actualité, un hommage national est rendu ce jour à Edgar Morin aux Invalides. Le philosophe et sociologue est mort vendredi dernier à 104 ans. Cet hommage national vient saluer le parcours d'un philosophe, écrivain, résistant et sociologue du temps présent, a indiqué l'Élysée. Le Parlement reconnaît la part de responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone aux Antilles. Le texte adopté à l'unanimité contraint l'État à œuvrer à la dépollution des terres. Il pose aussi comme objectif l'indemnisation des victimes sans en faire une obligation. Le chlordécone est un pesticide qui a été utilisé dans les bananeraies de la Guadeloupe et de la Martinique jusqu'en 1993, malgré des alertes de l'Organisation mondiale de la santé sur sa dangerosité. Plus de 90% de la population adulte des Antilles est contaminée par ce pesticide. Plus de 10 ans après la mort de Corentin, 11 ans décédé à Metz des suites d'une opération, le tribunal correctionnel de Reims a tranché. Ces deux chirurgiens ont été condamnés pour homicide involontaire. En 2014, pour rappel, un Corentin est admis à la clinique Claude Bernard de Metz pour des maux de ventre. Une opération de l'appendicite tourne à la catastrophe. Corentin est finalement transféré au CHRU de Nancy, mais il décède le lendemain. Les experts révéleront quelques mois plus tard que Corentin avait été mal diagnostiqué et n'avait pas l'appendicite. Le tribunal a condamné le premier chirurgien à 30 mois de prison avec sursis et une interdiction définitive d'exercer la médecine. Le second est condamné à 24 mois de prison avec sursis et une interdiction d'exercer la médecine pendant 5 ans. Cholestérol, diabète, maladies cardiovasculaires, douleurs articulaires, la sédentarité rend les jeunes malades plus tôt. Les médecins s'inquiètent des conséquences à long terme de la sédentarité chez les enfants et les adolescents qui ne bougent plus assez. Un peu plus de 80% des adolescents ne pratiquent pas d'activité physique selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé paru en 2024. 72 supermarchés Auchan vont passer sous pavillon Intermarché. Le 27 janvier dernier, Auchan proposait à la vente 91 de ses supermarchés au groupe Mousquetaire, maison mère d'Intermarché, dans le cadre d'un vaste plan de rachat. L'enseigne est confrontée à de multiples difficultés économiques depuis plusieurs années. Intermarché ne reprendra finalement que 72 points de vente. Au total, ce sont 266 supermarchés Auchan qui sont concernés par cette vague de rachat. Et puis la France inflige 22 millions d'euros d'amende à Shein. C'est ce qu'a annoncé Serge Papin, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Il précise, la répression des fraudes sanctionne des manquements graves pour un commerçant. Droit de rétractation non respecté, consommateur privé d'informations obligatoires, absence de transparence sur l'impact environnemental des produits. En juillet dernier, l'enseigne chinoise avait déjà écopé de 40 millions d'euros d'amende. Une sanction similaire à hauteur de 200 millions d'euros a été infligé à Temu par l'Union européenne la semaine dernière.
Le quart d'heure actu sur RCN.
Le quart d'heure actu, ça touche à sa fin, mais d'abord notez que des paquets de farine de blé de la marque Francine font l'objet d'un rappel partout en France à cause de la présence d'un contaminant chimique. Ne les consommez plus, ces farines sont commercialisées depuis le 9 avril dans les points de vente Auchan, Carrefour, Franprix, Leclerc et Système U de la France entière. Les références sont à retrouver sur le site Rappel Conso. Allez, moi je vous retrouve demain pour un nouveau quart d'heure actu. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.
Tout savoir sur RCN, www.rcn-radio.org.